On leur dit ça c'est vrai, ils disent ok. On dit ça c'est pas vrai, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On leur dit ça c'est beau, ils disent ok. On dit ça c'est pas beau, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On dit le bonheur à la portée de tous, un gros téléviseur, un écran 24 pouces. Vous n'êtes pas des losers, vous les niquerez tous, vous pouvez devenir des stars, ouais. Vous pouvez gagner des milliards, allez. Regardez, 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 regardez. Regardez. On a le monde à notre pote, 6 milliards de Pékin moyens qui baissent docilement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Ils apprennent tout dans nos écoles, dans nos journaux, nos télés, ils ont tous cette envie folle, nous tutoyer, nous rassembler. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Commençons à faire un peu connaissance donc avec l'univers du goulag. Donc c'est ce camp, de cet ensemble de camps de travaux forcés pour les ennemis du peuple. Goulag, c'était un acronyme qui désignait en fait la direction générale des camps de travaux. Et cette direction, eh bien le nom de la direction est devenu le nom même des camps de travail, de travaux. Deux exemples sur quel chantier on pouvait faire au goulag. Ce sont des exemples parmi d'autres, mais qui sont assez caractéristiques de l'idéologie stupide et aussi de la cruauté qu'elle enclenchait. Le premier grand chantier du goulag, c'était la construction du Belomor canal. C'était une directive de Staline qui avait décrété que c'était urgent et d'une importance vitale pour la Russie. Il fallait construire un canal entre la mer Baltique et la mer Blanche. Donc, et cela, il avait dit de le faire en moins de 2 ans. Donc, il a décidé ça début des travaux, septembre 31, et il fallait que ce soit fini, il avait déclaré, avril 33. Peu importe les conséquences. Toute personne qui aurait remis en cause le bien fondé même de ce délai, parce que utopique, etc., lui-même aurait été, bien sûr, il remettait en cause la parole sacrée du camarade Staline, il aurait lui-même fini au goulag. Donc personne n'a bronché et on a commencé. Donc on avait 20 mois pour construire ce canal de 226 km dans un sol rocheux, donc difficile, et dans des terres marécageuses. En plus de ce canal de 226 km, il fallait construire 21 écluses à cause du dénivelé. Donc c'est un travail colossal. Le budget était nul. Par contre, il y avait à volonté 100 000 détenus qui allaient travailler constamment sur ce chantier. Alors des ingénieurs disent « mais il nous faut des ouvrages en béton ». On leur répond « on n'a pas le temps ». Les ingénieurs disent « il nous faut quand même au moins du fer ». Et on leur dit « prenez du bois ». Les ingénieurs disent « mais il nous faut des tracteurs, des grues, il nous faut des machines pour la construction ». Et on leur répond « vous n'aurez rien de tout cela, pas un sou, vous avez la main d'œuvre ». Donc tout à la main, avec la main d'œuvre. Donc la mortalité va être effrayante, évidemment. Mais c'est le résultat qui est le plus intéressant. Solzhenitsyn va, 30 ans plus tard, en 1966, discuter avec un chef d'une écluse. Et il va lui demander comment ça se fait qu'il n'y a pas de trafic maritime sur ce canal. Et le chef de l'écluse lui répond, il y en a, mais pas beaucoup. Hein, tu comprends, pas assez profond, 5 mètres seulement. Le canal ne faisait que 5 mètres de profondeur. Donc, aucun gros bateau, une grosse péniche ne peut passer. Alors on a voulu le reconstruire, mais on va certainement en creuser un autre à côté pour tout de suite pas perdre de temps. Il sera tout de suite bien. Et en réalité, dès 1934, la supercherie avait éclaté. On avait même pensé dès 1934 à reconstruire des constructions parallèles. Et là, on a un bel exemple de ce que c'est l'idéalisme, l'idéologie, la folie de l'idéologie. Je veux, donc ce sera. Le volontarisme. Alors, c'est bien quand on est chef de savoir imposer un but, de savoir un peu pousser les autres à se surpasser pour le bien commun. Oui, mais il faut que ce but soit réaliste. Je veux donc, je suis le chef donc, ça c'est n'importe quoi. Ça c'est de l'idéologie, ça c'est de l'irréalisme. Et quand on demande à des gens quelque chose d'irréaliste, les gens trichent. Et c'est ce qu'ils ont fait au goulag. Ils ne pouvaient pas faire ça en 226 km de canal en 20 mois, c'est pas possible. Donc, le temps il fallait gagner du temps. Ben, au lieu de creuser un canal normal, je sais pas, 12 mètres, je dis ça au hasard, et ben, on a triché sous l'eau, ça se voit pas. Alors, ça s'est vu plus tard, bien sûr, mais les ingénieurs, bien sûr, ont pris 10 ans de goulag en plus. Mais voilà, c'était ça où tout de suite se faire choper. Bel exemple de l'idéologie matérialiste qui pense pouvoir imposer comme ça ses volontés aux hommes. Pour tous ces travaux, donc, il fallait beaucoup de main-d'œuvre. Et il y en avait beaucoup, beaucoup. L'archipel du Goulag, ça représente, Solzhenitsyn la compare à une tumeur qui représente 8% de la population russe de l'époque. Donc c'est presque un Russe sur 10 était au Goulag, et passé au Goulag. C'est considérable. Souvent, pas toujours, mais souvent, les travaux étaient sans intérêt. Ça savait même pas le bien commun. Vous allez comprendre la logique de ça, c'était de terrifier le peuple. C'était pas de agir au bien commun ou de protéger le peuple d'un ennemi du peuple. Souvent, donc, comme dans un camp de femmes à Spassk en 1949, les travaux étaient sans raison d'être vraiment. Les marteaux se démanchaient, les manches se cassaient, et pour les faire réemmancher, il fallait les expédier. Bref, on n'avait pas l'outil pour travailler, extraire des graviers. Mais pourtant, de chaque femme, on exigeait une norme de 0,9 mètres cubes par jour, presque un mètre cube de gravats. Et comme elles étaient hors d'état de remplir cette norme, quand vous n'avez pas de marteau et pas de pioche, vous allez extraire un mètre cube de gravats. Pas possible, une fois de plus. Alors elles reçurent la ration disciplinaire de ceux qui travaillent mal. Et jusqu'à ce que les hommes, qui avaient un camp voisin d'hommes, leur aient appris qu'il fallait prendre les pierres, les anciennes pierres sur d'anciens tas, et les mettre sur les nouveaux tas, parce qu'on contrôlait que le nouveau tas. Donc là encore, tricherie, tout simplement. Puisque c'était impossible, il fallait trouver une méthode pour avoir la ration normale. Ces travaux étaient exécutés par des invalides, aussi bien que par des gens valides, par des hivers rigoureux, moins 35 à cette époque, à cette région, et en vêtements d'été partout sur le marché. Les rations étaient les suivantes, pour les invalides, 550 grammes par jour, et pour les travailleurs, 650 grammes par jour. Je propose aux jeunes garçons, adolescents, de faire une expérience pendant 3 jours, de travailler normalement, de vivre normalement, mais de mesurer, ils ne mangeront pas une miette de plus que les 650 grammes. 3 jours. Pas de literie, pas de médicaments, bien sûr. Chaque jour, dans ce camp, 200 personnes étaient chargées chaque jour de creuser des fosses, des tombes pour les morts. Car en 1949, à l'été, qui était pourtant un été pas trop rigoureux, il y avait 170 morts par jour. En hiver, un peu moins, une centaine. Tout cela, dit Solzhenitsyn, se passait en 1949, c'est-à-dire 32 ans après la révolution d'octobre, 4 ans après la fin de la guerre et ses cruelles nécessités, 3 ans après l'achèvement du procès de Nuremberg, dont on a vu qu'il était une imposture, et où l'humanité entière avait dit avec soulagement, cela ne se repoudra plus jamais, plus jamais, plus jamais la guerre, plus jamais la souffrance, plus jamais l'imposture, etc. Bien. Mais ça encore, je dirais, c'est du classique, c'est l'homme qui est capable de faire souffrir l'homme, je veux dire, ça existe depuis que Caïn a tué Abel. Ce qui est plus caractéristique à notre époque moderne, c'est comment on peut faire pour mettre 8% de population comme ennemi du peuple dans des camps. Comment on y arrive? Qui étaient les victimes de ce goulag et comment on fait pour arriver au goulag? Et là, la réalité est terrible parce qu'elle est satanique. On y allait pour un rien. Pour un rien, on pouvait finir au goulag. Et donc, personne n'était à l'abri du goulag. Et c'est ça qui était recherché, la terreur que cela peut créer. Et quand vous savez d'où vient le coup, on est préparé. Mais vous êtes dans le noir, vous ne savez pas d'où va venir le coup. Il y a un état de stress qui est considérable. Et donc quand on sait que pour un rien on peut aller au goulag, ça met une terreur dans la société. Et c'était ça le but recherché. Et on le faisait légalement, parce que tout est légal, hein. On peut tuer des gens légalement, hein. L'avortement c'est légal, vous pouvez tuer votre enfant, c'est légal, la société, la République judéo-maçonnique ne vous dira rien, tuer vos enfants c'est légal, c'est légal à partir d'une date, voilà. Jusqu'à 12 semaines c'est légal, mais à 14 semaines, à 20 semaines c'est plus légal, bon, c'est comme ça, c'est l'homme qui a décidé, encore une fois, je veux que, l'orgueil de l'homme. Donc là, c'était légal, il y avait l'article 58 du code pénal avec 14 sous-paragraphes, donc il y avait 14 sous-motifs pour finir au goulag. C'était avec ça qu'on finissait donc dans les camps. Ça allait du terrorisme à la non-dénonciation. Et c'est comme ça que des millions de citoyens, qui étaient ni terroristes ni quoi que ce soit, eh bien, ont fini au goulag comme étant des criminels, des ennemis du peuple. Alors, il faut traduire tout ça en langage d'aujourd'hui, eh bien, on dirait que l'État lutte contre la haine, la diffusion de la haine. Et donc, contre les haineux, eh bien, tout est possible. C'est ça qu'il faut traduire. Et les révolutionnaires russes ne faisaient qu'imiter la dialectique révolutionnaire des Français en 1789, hein, où tous ceux qui étaient ennemis de la Révolution étaient considérés comme des brigands. Hein, les chouans, qui ne faisaient que défendre leur foi, leur roi et leur patrie, étaient des brigands, des ennemis du peuple. À l'époque, on ne disait pas ennemis du peuple, on disait conspirateurs contre la souveraineté du peuple. C'est aussi un superbe mensonge, une superbe imposture. Le peuple n'a jamais été souverain. Ce sont que des pervers, des idéologues et des bourgeois qui ont fait la révolution et qui ont trompé le peuple et qui l'ont fait au nom du peuple. Ben, un autre passage, notre histoire. Donnons quelques exemples de ce que nous disons. Pour un rien, on finissait au goulag. Un tailleur, quelqu'un qui coud les vêtements, mais veut poser une aiguille qui la gêne, il la pique sur un mur. Sur un tableau d'affichage, il y avait un article de journal, et sans le faire exprès, il met l'aiguille dans l'œil de Kaganovitch. Kaganovitch était une des principaux politiques amis de Staline. Il est vu par un client, il est dénoncé, il a l'article 58, et il prend 10 ans de goulag pour terrorisme. Une vendeuse reçoit une marchandise, là encore, elle n'a pas de papier sous la main pour noter un chiffre, elle prend un papier de journal qui est devant elle, elle note le chiffre sur le front de Staline. Elle est vue, elle est dénoncée, et là encore, il n'y a pas de doute, 10 ans pour article 58. Un gérant d'un club, donc lui, il joue dans du parti, donc c'est plutôt un communiste. Il va même acheter, pour montrer son zèle, il va acheter une statue, un buste de Staline pour installer en club. Mais le problème, c'est qu'elle est très lourde, et son bras est trop court, devant ça lui fait mal, donc il prend comme solution efficace, il prend sa ceinture, il l'accroche autour du buste, et puis là, bien derrière, comme une corde, comme un sac, et bien là, il peut facilement transporter le buste de Staline. Alors là, évidemment, il est vu par tout le monde, manque de respect pour l'idole, là encore, article 58 et peine de goulag. Un matelot a vendu sur un port à un Anglais un briquet Katushka. Là aussi, il est condamné à une peine de prison, de goulag, donc, pour le motif était atteinte à l'autorité de la patrie. Comprenez bien que ça n'a aucun sens. C'est ça qui est recherché. Dans un mouvement de colère, un paysan engueule sa bête qui était désobéissante et il la traite, je cite, « putain de vache de kolkhoz ». Le gars est en colère, il insulte sa vache. Ouais, mais attention, kolkhoz est une institution communiste, c'est à révérer. Donc là aussi, eh bien, article 58, il fera un temps de peine. Un charpentier sourd et muet. Un sourd et muet. Il va finir au goulag, pourquoi et comment? Eh bien, il devait donc, étant charpentier, on lui confie la restauration d'une grande salle du parti, mais la salle est complètement vidée, il n'y a rien pour mettre sa veste quelque part, il va travailler, il ne va pas rester par terre. Alors il y a quand même là un buste au mur, un buste de Lénine, alors il va mettre sa veste sur la tête du buste. Donc ça cache la tête, là encore, irrespect, etc. Article 58, 10 ans. Un écolier de 16 ans. Ah, on est sur la jeunesse. Oui, on verra. Il y avait des enfants de 5 ans, de 10 ans, de 12 ans dans le goulag. Un écolier de 16 ans a fait une faute en écrivant, en répétant un slogan qui était en russe, et c'était pas sa langue maternelle, donc il fait une faute. Là encore, il sera article 58, 5 ans de goulag. À la comptabilité d'un sauve-cause, on a accroché le slogan suivant. La vie est devenue meilleure, la vie est devenue plus gaie, citation Staline. C'est de la propagande évidemment. Mais quelqu'un, de manière secrète, et là pour le coup contre-révolutionnaire, va rajouter en rouge pour Staline. C'est-à-dire, la vie est devenue meilleure pour Staline, hein, pas pour nous. Alors là, oui. Mais là, ils n'ont pas cherché. Ils ont coffré toute la comptabilité. Oui, oui. Il faut terroriser. Il faut terroriser. Dernier exemple, Irina Tunchinskaya est arrêtée lorsqu'elle revenait de l'église. Pas parce qu'elle était à l'église, ce n'est pas le motif direct ça. Elle va être condamnée à 25 ans pour terrorisme, article 58, et le motif va être précisé, parce qu'elle a prié pour la mort de Staline. Donc on sait ce qu'il y avait dans son cœur lorsqu'elle priait en secret dans une église. Et remarquez-le bien, on n'en est pas loin aujourd'hui. Les lois liberticides qu'on nous ponde vous condamnent parfois pour des intentions, pas seulement pour des mots. pour avoir eu l'intention de nier la Shoah, par exemple. On en est là aujourd'hui. Alors, c'est absurde, c'est saugrenu, ça n'a aucun sens, en effet. Et c'est justement ça qui était recherché. La terreur comme moyen de persuasion. Et c'était ça le sens premier de la terreur. C'est, il faut l'absurdité. Sinon, les gens n'auront pas peur. S'il y a une logique, on la comprend et on peut l'esquiver. Mais il n'y a plus de logique. Alors là, on est dans la terreur. Alors, Solzhenitsyn fait une remarque intéressante, mais personne ne pourrait croire ça. Puisque ça n'a pas de sens, comment croire des choses aussi énormes? Et en effet, l'Europe, à l'époque, n'a pas cru les témoignages qu'il pouvait faire. Mais Solzhenitsyn lui dit, mais nous, les Russes, est-ce qu'on a cru à cela? Est-ce qu'on a réfléchi à cela? Est-ce qu'on l'aurait cru si on nous l'avait dit que ça s'est passé il y a 50 ans? Il y a 100 ans? Non, ils ne l'auraient pas cru. Mais si on commence à dire, oui, il y a 400 ans ou il y a 1000 ans, alors si on va très loin, alors là, oui, la barbarie, la stupidité, là, on veut bien y croire. Parce que c'est tellement loin, on croit nécessairement qu'avant, c'était moins bien. Aujourd'hui, on a le progrès, on a la technique, on est des hommes, on est libre, etc. La propagande nous pousse à croire cela plus facilement. Une horreur qui se passe il y a 1000 ans, on y croit. Mais l'horreur qui est présente, on n'y croit pas. Or, elle était présente. Donc si ça vient au fond des âges, on veut bien le croire. Mais pas aujourd'hui. Et pourtant, la moitié de l'archipel du Goulag était composée de gens qui étaient article 58, c'est-à-dire des gens qui n'avaient rien fait. Enregistrer quelqu'un comme article 58 était le moyen le plus simple de rayer un homme, de le retirer de la circulation en vitesse et pour toujours, de la vie sociale. Aujourd'hui, hein, je vous dis, traduisons, c'est on ferme tout au nom de la haine. Vous êtes censuré parce que vous véhiculez la haine. En fait, vous véhiculez un propos contre critique et donc pertinent, donc qui gêne le système tyrannique en place. Donc, au nom de la haine, on vous censure. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que le goulag était fait pour des gens qui n'étaient pas coupables. Des prisons faites pour des innocents. Voilà ce que c'est la particularité du goulag. Et c'est là vraisemblablement un événement inouï dans l'histoire mondiale des prisons. Des millions de prisonniers qui avaient conscience d'être innocents, ils n'étaient pas voleurs, ils n'avaient pas tué, ils n'avaient pas arnaqué, etc. C'est pas des saints, hein. C'est des pécheurs comme la race humaine, mais enfin c'était pas quand même des bandits, des criminels, au sens légal. Donc que tous sont innocents et que personne n'a jamais commis de faute. Dostoïevski, un écrivain russe qui a écrit à l'époque des tsars, hein, que la révolution d'octobre des communistes a mis par terre et qu'elle a tué de manière cruelle. Donc Dostoïevski, qui a lui aussi été emprisonné sous les tsars, raconte que dans prison il n'a connu qu'une seule personne qui se revendiquait comme étant innocent, parce qu'il y a toujours des abus de pouvoir évidemment et des injustices, mais il y en avait un. Sur tous ceux qu'il a côtoyé, il n'y en avait qu'un qui dit « moi, j'ai rien fait, c'est injuste ». Mais à l'époque de Solzhenitsyn, c'est 50% qui peuvent dire ça, qui sont au goulag. Vous voyez la disproportion. Pourtant, dans l'imaginaire, dans la propagande, on va présenter l'époque des tsars comme étant le summum de la barbarie. Alors que c'était le XXe siècle, le summum de la barbarie. Pourtant, et autre marque très importante de Solzhenitsyn, pourtant ces foules de rencontres expédiées derrière les barbelés, non pas pour la logique de leurs convictions, mais par un coup du destin, ne trouvaient aucune force supplémentaire dans la conscience qu'elles avaient d'être innocentes. Non, elles étaient complètement abattues à cause de cela. Elles en étaient même plus accablées par l'absurdité de leur situation. Plus attachées à leur existence d'avant qu'à quelques convictions que ce fût, elles ne manifestaient aucun empressement au sacrifice, aucune unité non plus, ni aucun esprit combatif. Et tous ces innocents, ils auraient pu se sentir soudés. Non, ils étaient séparés des individualités, abattus par l'absurde. Pas d'unité, pas de conviction politique ou religieuse, à part il y aura des exceptions, on les verra. Et donc pas d'esprit combatif. La racaille, le truand, eux, ils ont des lois, même si c'est des lois de truand. Ils ont des unités, ils ont une certaine unité entre eux, raciale ou de clan, etc. Mais ces gens-là qui étaient innocents étaient terrorisés par l'absurde. Il a fallu du temps avant qu'ils puissent créer ces liens pour se protéger de la tyrannie de l'État, plus ou moins. Et les Français aujourd'hui sont dans ce cas-là. face à un goulag mental qui les a séparés, la plupart par leur faute aussi, plus de conviction politique, plus aucune conviction religieuse. Donc pourquoi se battre? Au nom de quoi je vais me battre contre l'absurde? Quand on ne comprend pas, on est abattu. Quand on comprend, c'est peut-être dur, mais au moins on a déjà une clé de lecture. Dès la prison, par des cellules entières, elle devenait la proie de deux ou trois truands. Comme aujourd'hui, quelques racailles suffisent pour terroriser une population. Dans les camps, ces gens innocents étaient déjà totalement brisés, prêts à rien d'autre qu'à se courber sous le bâton du répartiteur, du truand ou sous le poids du brigadier, encore seulement capables d'assimiler la philosophie des camps, c'est-à-dire chacun pour soi et tout le monde trompe tout le monde. Ça, on le verra la prochaine fois. Alors, attention à ne pas tomber dans le piège que dénonce Solzhenitsyn. La barbarie, c'était au fond des âges, il y a longtemps. On pourrait se dire, oui, mais ça, c'était la Russie communiste, c'était le siècle dernier, le 20e siècle, on est au 21e siècle, on n'en est pas là. Alors, finissons par un exemple qui date du 31 mars 2020 et qui s'est passé en France. Je lis le témoignage, enfin, je raccourcis le témoignage de cette personne qui a signé de son nom. Peu importe pour nous. J'ai 45 ans, je suis père de famille de deux filles, 9 et 12 ans. Ce mardi 31 mars, à 21h10, je suis sorti de chez moi pour fumer une cigarette hors de mon appartement, afin que la fumée n'indispose pas mes deux filles. J'habite Montussan, un village entre Bordeaux et Libourne. À 21h, les rues sont quasi désertes. Et j'ai fait quelques pas pour aller jusqu'à l'église à 300 mètres en fumant ma cigarette. Et là, des gendarmes passent et s'arrêtent à ma hauteur. Et il me demande mon attestation, à l'époque de l'imposture qui continue, du Covid, qui soi-disant, on connaissait l'histoire. Je ne l'ai pas, vos papiers, je ne l'ai pas. Et il leur explique le cas tout à fait fortuit dans lequel il s'est trouvé. Mais ils insistent, ils veulent l'attestation. Alors ils disent qu'ils vont procéder à un contrôle d'identité. Alors il leur explique que c'est très gênant, mais qu'il va les suivre, mais qu'il faut faire vite parce que ces deux enfants sont seuls dans l'appartement. Alors, à leur invitation, je monte dans leur véhicule et ils demandent où s'asseoir et on lui dit là, il ne comprend pas où, c'est un kangou, donc je ne sais pas la disposition, il le décrit mais ce n'est pas très clair, il ne va pas aller bien où il va se mettre par rapport au siège. Et énervé, un gendarme lui dit là et puis le pousse, l'homme fait une chute, pas très grave, mais suffisamment pour qu'il perde équilibre, sa tête touche la fenêtre qui va être assez pourrie et va tomber malencontreusement par terre. Pas se casser, mais elle est comme déstockée de son... Elle tombe. Là, les gendarmes changent de ton, même si le ton n'était pas excellent dès le début. Les gendarmes le menottent, il prend les menottes, et il lui signifie une mise en garde à vue pour dégradation d'un bien d'utilité publique. Donc il va à la gendarmerie qui se trouve à 15 km plus loin. Et là, on fait vérification d'identité, bien sûr, contrôle d'alcoolémie et aussi de stupéfiants. Est-ce qu'il n'aurait pas fumé des joints? Est-ce qu'il se drogue, etc. Le gars lui rassure, dit « Mais vous n'avez rien trouvé, je suis un père de famille qui est sorti pour fumer une cigarette. Donc cherchez, vous ne trouvez rien. » Mais eux sont persuadés. Puis ils ne trouvent rien, donc ils sont un peu vexés et ils vont l'enfermer... comme la loi leur autorise, la loi autorise de mettre après dans une garde à vue ces 48 heures, donc ils sont dans la geôle, pour dégradation volontaire. Pendant ce temps-là, il fouille son téléphone portable, il trouve le numéro de téléphone de sa femme avec qui il est en instance de divorce, et qui lui indique eh bien, une de ses connaissances pour pouvoir garder les deux enfants pendant la nuit de la garde à vue. Mais cette personne, le monsieur ne le connaît pas, il ne connaît pas cette femme. Le lendemain, il est auditionné, en référé, je pense, par un juge, quelque chose de rapide évidemment, on ne trouve rien de particulier, mais pendant l'audition, les gendarmes vont faire pression sur lui pour lui faire comprendre que s'il veut que la garde à vue s'arrête le plus vite possible, eh bien il faut qu'il accepte de rembourser la vitre qui a été cassée. Sinon, eh bien, il va rester encore plus de 24 heures en garde à vue. Alors, dit le monsieur, eh bien, après la nuit blanche que j'ai passée, eh bien, je signais, sans même les regarder, les 20 feuilles qui me sont présentées, et, afin de retrouver le plus vite possible mes enfants, et traumatisé par l'expérience et par tout ce qui a pu se passer. Donc, le lendemain, à 11h, il est libéré, et il se retrouve maintenant seul, crasseux, hein, une nuit, après une journée, vous imaginez, on n'est pas très bien, à 15 km de son village, à pied, sans voiture. Tout ça pour avoir fumé une cigarette, pour ne pas nuire à ses deux filles. dans un contexte de mensonge généralisé. On est dans un goulag mental. Et cette anecdote est très intéressante parce qu'elle peut résumer tout ce qui va se passer. C'est-à-dire, il y a en France, tout est prêt pour le goulag. Tout est prêt. On y est déjà. Alors, pas dans l'acuité du goulag russe, évidemment, mais tout y est prêt. Cette histoire-là, on va la retrouver à différents... harmonisé à différents degrés, mais on va la retrouver constamment. Je signe, je suis prêt à dire n'importe quoi pour éviter et les abus de pouvoir, le mensonge d'État, la tyrannie d'État. Tout y est. Il concluait ainsi son témoignage, j'ai été broyé par un système où l'humain n'a pas sa place, où la réflexion, l'intelligence n'ont plus leur place. On est dans le non-sens. Et ça vous casse les pattes. Ou quoi qu'il arrive, vous avez tort. Vous n'avez aucun droit, aucun recours, aucune dignité. Vous n'êtes rien. Vous êtes à la merci de n'importe quel chef faillon. C'est à vous de vous expliquer. Et vous devez même expliquer l'inexplicable, quoi qu'il arrive. La conclusion est très belle. On est face à l'absurde. Comprenez bien que dans ces moments-là, et on le verra aussi, on ne triche pas face à des situations comme ça. Et, on ne sait pas comment nous-mêmes nous réagirions, mais en tout cas, si on a une unité intérieure, si le vieil homme a été tué en nous, eh bien, il y a plus de force pour résister, il y a plus de force pour supporter de telles croix, parce que c'est une croix. La croix, c'est une injustice. Hein. Quand on dit aux chrétiens qu'il doit porter sa croix, il médite le Christ, en portant sa croix, il supporte la suprême des injustices. Il la supporte pour nous donner l'exemple et pour nous sauver. Nous, on n'est pas tenus toujours et tout le temps de supporter des injustices. Parfois, il faut même les lutter, surtout si on a autorité. Mais quand on n'a plus aucun pouvoir, ben on a la phase calvaire, phase crucifixion. Et c'est là que l'importance de la vie chrétienne d'avant se fait sentir de manière accrue. La conviction qu'il y a en nous, la foi qu'il y a en nous, le vieil homme qui a été tué, en tout cas bien maîtrisé, parce que sinon, tout est beaucoup plus dur, même si on peut se réveiller tous les jours, certains se réveillent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
On leur dit « eux gentils », ils disent « ok ». On leur dit « eux méchants », ils disent « ok ». Qu'est-ce qu'ils sont cons ? On leur dit « c'est la guerre », ils disent « ok ». On leur dit « faut la faire », ils disent « ok ». Qu'est-ce qu'ils sont cons ? On dit l'ennemi se cache n'importe où, surveillez vos amis, restez planqués chez vous, nos démocraties sont en danger partout, on leur dit insécurité. On dit état policier, allez, paniquez, 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 paniquez. On a le monde à notre pote, 6 milliards de Pékin moyens qui baissent docilement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Au service de nos portefeuilles, sous les prétextes les plus grossiers, ils se font démonter la gueule partout, ils restent à piller. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Puis on dit l'air et l'eau deviennent des denrées rares qu'on achète en tonneau, payant pétrodollars. Faites de plus en plus chaud, faites de plus en plus noir pendant qu'on gaspille ce qu'il reste. Tâchez de vivre un peu modeste pour réparer, 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 réparer. Réparer. Nous on a le monde à notre pote, 6 milliards de Pékin moyens qui baissent docilement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Ça attend qu'on les culpabilise et que l'on sait les surveiller, qu'on les distraite, qu'on les divise. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Ok. 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 Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, respirez plus.